Quatrième et dernier temps de cette semaine consacrée dans la fabrique de l'histoire à la préparation du bac d'histoire, tandis que les nouveaux chemins de la connaissance à 10h, la compagnie des auteurs à 15h et les émissions de science à 16h participent également à cette opération bac 2016, mention France Culture. Trois sujets ont donc déjà été traités ici même dans cette émission et aujourd'hui je vous rappelle la règle classique de cette émission depuis le début de la semaine, chaque jour une même règle, un documentaire de 20 minutes qui a été préparé par Victor Massé de l'Épinay et réalisé par Séverine Cassard comme une sorte d'encadré sur un événement marquant le chapitre du jour et puis ensuite à corriger par un ou plusieurs professeurs. Alors aujourd'hui le thème c'est la Chine et le monde avec deux professeurs qui nous viennent avec leur classe du lycée Jacques Prévert de Taverny, qui nous viennent de Taverny, c'est Isabelle Boissel. Bonjour Isabelle Boissel. Et bonjour à vous Benoît Drouet, vous êtes également bonjour. Avec nous. Et en première partie de cette émission, donc le documentaire préparé par Victor Massé d'Épinay, réalisé par Séverine Cassard autour de 1978, une date importante dans l'histoire de la Chine telle qu'elle est décrite par l'historienne Stéphanie Balm et les archives qui ont été retrouvées dans le fond de l'Institut National de l'Audiovisuel.
À Pékin, la nouvelle attendue depuis des mois est maintenant officielle. Depuis midi, elle a été accueillie par des cris d'allégresse et même un concert de klaxons à Pékin. Deng Xiaoping, l'ancien vice-premier ministre de la République populaire, est réhabilité. Il réintègre tous les postes qu'il occupait avant sa chute. Et selon des sources dignes de foi, il serait bientôt nommé premier ministre. Les explications de notre spécialiste des affaires chinoises, Jacqueline Dubois.
Par une étrange coïncidence, son nom signifie petit, plat ou égal. Cet homme, d'1m48, âgé de 72 ans, a toujours été égal à lui-même. Issu d'une famille bourgeoise comme Chu Enlai, dont il était l'ami, vétéran de la longue marche, il préconise, depuis la victoire de 1949, l'industrialisation et le développement économique de son pays. En Chine, la lutte entre deux points de vue opposés dure depuis l'avènement de la République populaire. C'est la ligne idéaliste de Mao Zedong contre la ligne pragmatique de Liu Shaoqi et de Deng Xiaoping. Pour Mao, il était essentiel d'entretenir l'esprit révolutionnaire du peuple chinois. Mao était convaincu que la lutte des classes en Chine servirait d'exemple aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et qu'elle déclencherait une révolution sur ces continents. Liu Shaoqi et Deng Xiaoping affirmaient que la révolution mondiale était un mythe et que la Chine devait devenir une puissance économique si elle voulait survivre. En 1966, voyant l'embourgeoisement, sa bête noire, s'installer dans son pays, craignant l'échec de sa révolution, et afin de pouvoir éliminer Liu Shaoqi qui devenait de plus en plus puissant, Mao Zedong lance la révolution permanente, qu'il baptise la grande révolution culturelle prolétarienne. En fait, sa mission n'est pas de combattre l'analphabétisme comme son nom l'indique, mais de maintenir éveillé l'esprit révolutionnaire des masses chinoises. Des jeunes gardes rouges fanatisés s'attaquent aux vieux cadres du parti. Liu Shaoqi est renvoyé à la campagne. Deng Xiaoping ne perd pas son sang-froid. Aux gardes rouges qu'il insulte et qu'il accuse de trahir le marxisme-léninisme, il répond avec ironie. Comment pouvez-vous parler de marxisme-léninisme alors que vous n'avez lu ni Marx ni Lénine ?
Stéphanie Balm, on commence avec une archive de juillet 1977, quand Deng Xiaoping est rappelé aux affaires pour de bon. C'est intéressant d'avoir au début une rétrospective de la vie de Deng Xiaoping, puisqu'elle a duré très longtemps, entre 1904 et 1997, et elle traverse donc tout le XXe siècle de l'histoire de la Chine. En écoutant cette journaliste, on a un peu l'impression que Deng Xiaoping est un vieil opposant à Mao Zedong. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Deng Xiaoping, c'est d'abord un vieux compagnon de route de Mao.
Oui, Deng Xiaoping, c'est un vieux compagnon de route de Mao, c'est un vieux compagnon de route de l'histoire de la Chine révolutionnaire, ça c'est sûr, et vous avez raison d'indiquer que sa vie en elle-même est un résumé de l'histoire de la Chine et de la place de la Chine dans le monde au XXe siècle. Et puis Deng Xiaoping, qui est perçu maintenant comme finalement celui qui a incarné la démaoïsation, en réalité a aussi agi comme un petit Mao une fois qu'il a pris le pouvoir après 1978, dans les années 80 et 90, essentiellement après 1989, où il est devenu, enfin où il a commencé à incarner au contraire une forme de conservatisme, surtout un conservatisme politique. Donc c'est vrai qu'il est compagnon de Mao dans le sens où il a rejoint le Parti communiste chinois très tôt. Il a adhéré au Parti communiste chinois en France, dans la section européenne, alors qu'il était étudiant ouvrier en France.
Donc ça, c'est dans les années 20.
Exactement, les premières archives dont on dispose sur lui indiquent qu'il serait arrivé en France en 1920. Et en France, il a peu étudié, en revanche, il a beaucoup travaillé. Il a travaillé dans les usines Schneider au Creusot, il a fait des galoches à Montargis, dans l'usine Hutchinson. Et d'ailleurs, il était perçu comme étant un ouvrier rebelle, un ouvrier qui ne respectait pas les consignes, et raison pour laquelle il a dû arrêter ses activités en France.
Et alors ensuite, il est retourné en Chine ?
Oui, bien sûr, mais il s'est passé beaucoup de choses avant. C'est-à-dire qu'il n'a pas quitté la France pour la Chine. Il est passé d'abord par l'Union soviétique. On a trace, en fait, de lui en 1926 à Moscou. Il est formé beaucoup plus à la dimension théorique du marxisme-léninisme. Ensuite, il rentre en Chine et là, il s'engage militairement. Il va faire partie de la République soviétique du Jiangxi. Il va jouer un rôle très important. Et puis, c'est un compagnon de la longue marche. C'est un compagnon de Mao pendant la guerre civile. Et ensuite, effectivement, on le retrouve auprès de Mao au moment de la fondation de la République populaire en octobre 1949.
Alors, il semble que ce soit au moment du grand bond en avant que les premières divergences avec Mao aient commencé à voir le jour.
Alors, c'est vrai que, voilà, on simplifie les choses là, en disant que c'est ce qu'il faut retenir, mais en réalité, son rapport au communisme chinois est sans doute au départ assez proche de Mao, dans le sens où lui, comme Mao à l'époque, cherchait une solution chinoise au communisme, ou en tout cas cherchait à trouver une version beaucoup plus spécifique, fidèle aux caractéristiques chinoises, qui était en fait celle de la ruralité, celle de la Chine agraire, et considérait à l'époque que les solutions d'une révolution industrielle basée sur la planification soviétique avaient ses limites compte tenu de la réalité de ce qu'était la Chine. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que Deng Xiaoping, il vient d'un milieu de propriétaires fonciers, il vient de la province du Sichuan, il a été gouverneur du Sichuan après 1949, mais il était aussi vice-premier ministre et ministre en charge des finances, c'est-à-dire qu'il avait un regard économique sur le développement de la Chine, et on considérait à l'époque qu'il était conservateur sur le plan politique, mais qu'il cherchait des solutions pragmatiques sur le plan économique. Et effectivement, ça se révèle tout à fait dans sa pratique du pouvoir, dans cette première partie de l'histoire de la République populaire de Chine, dans le sens où il a été derrière Mao en le soutenant au moment du mouvement de la campagne contre les droitiers. Et en revanche, il s'est opposé, ou il a indiqué son opposition à Mao pendant la période du grand bond en avant, car il considérait que c'était une erreur fondamentale, en fait, qui allait mener à ce qui est arrivé en Chine, c'est-à-dire une catastrophe économique qui a abouti à une famine qui a sans doute fait entre 30 et 50 millions de morts.
Et alors, au moment de la révolution culturelle, c'est-à-dire à partir de 1966, Deng Xiaoping commence à émettre quelques réserves sur la politique menée par Mao. Et lui aussi, est-ce qu'il va se faire finalement accuser d'être un droitier ?
Si vous voulez, Deng Xiaoping, on peut considérer que parmi les hauts personnages du Parti communiste chinois de l'époque, figure parmi les premières victimes de la révolution culturelle. Alors, il n'a pas perdu la vie, contrairement à d'autres, je pense à Peng Dehuai par exemple. Il a été sans doute très relativement protégé par son bras droit, par son protecteur, qui était Zhou Enlai. Mais il a quand même été une victime directe, une victime, lui ainsi que son épouse, ainsi que ses enfants, et notamment son fils, Deng Pufeng, qui a été torturé quasiment par les gardes rouges et qui, pour échapper à l'une de ces séances de torture, a souhaité se défenestrer et donc en fait n'est pas mort de ses blessures mais a été lourdement handicapé. Et il est aujourd'hui une figure très importante du mouvement pour la défense des droits des handicapés en Chine, si vous voulez. Donc c'est vrai que si on avait le temps de faire l'histoire de Deng Xiaoping pendant la révolution culturelle, c'est une histoire dramatique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pourquoi il est connu à la fois en Chine parmi les nouvelles générations et à l'étranger. C'est-à-dire son slogan sur le pragmatisme, quand il explique « peu importe que le chat soit blanc ou noir, l'important c'est qu'il attrape les souris ». Ou bien le slogan des quatre modernisations, qui en fait sont le signe pour nous de l'après-maoïsme, sont en fait des slogans qui datent juste après le grand bond en avant. C'est-à-dire que ce sont des slogans qui datent de 1961 et 1964, tous les deux respectivement. Ce qui indique bien qu'il figurait et qu'il était perçu comme étant un ennemi de Mao, un ennemi du soviétisme, un ennemi de la collectivisation à la chinoise, et qu'au contraire, il était perçu comme étant un élément capitaliste dangereux. Donc une cible évidente pour les gardes rouges.
En 1973, il réapparaît de nouveau, rappelé par son ami Zhou Enlai avec l'accord de Mao. Chu Enlai, le modéré, le diplomate, le bras droit et le compagnon de toujours du grand timonier, réussit à convaincre Mao Zedong qu'il s'était trompé. Dès lors, l'ascension de Teng est rapide. Il réintègre le bureau politique au début de 1974. Le 17 janvier, il y a un an, il devient premier vice-premier ministre, membre du comité permanent et vice-président du Parti communiste. Lorsque Chu Enlai meurt le 8 janvier 1976, Teng apparaît comme son successeur. Et puis, le 18 avril 1976, c'est une nouvelle disgrâce. Sur les ordres de la veuve de Mao et de ses amis, la manifestation à la mémoire de Chu Enlai est réprimée par la police. Teng est accusé d'en avoir été l'instigateur. Il est démis de toutes ses fonctions. Et pourtant, c'est déjà le champ de cygne de la révolution culturelle. Le 17 janvier 1977, la cérémonie à la mémoire de Chu Enlai se transforme rapidement en un mouvement populaire pour le retour de Teng Xiaoping. Des affiches murales exigent toute la vérité sur son élimination. Il devient clair que d'ores et déjà, Teng Xiaoping représente la volonté de la majorité de la population chinoise.
Alors Stéphanie Balm, c'était la suite de cette archive. Donc nous sommes en 1977 et ça y est, Deng Xiaoping revient au pouvoir. Après, on l'a vu, beaucoup de péripéties.
Oui, beaucoup de péripéties, si, parce qu'en fait, on comprend qu'il a été réhabilité, puis déchu, puis réhabilité. Il y a cette fameuse année 76 qui marque le là de l'histoire de la Chine et de la sienne, pour le coup, puisque quand même, entre avril et octobre 1976, donc en l'espace de 6 mois, il se passe la mort de Zhou Enlai, le retour du... Enfin, je veux dire, la prise du pouvoir très nette de Jiang Qing qui dénonce Deng Xiaoping. Il se passe aussi un événement extraordinairement important qui est un tremblement de terre, le tremblement de terre de Trangshan qui a lieu en juillet 1976 et qui est d'une ampleur absolument considérable et qui va jouer un rôle politique très important. En septembre, Mao meurt et finalement, très très vite, le 6 octobre, si je ne me trompe pas, c'est l'arrestation de la bande des quatre. Donc dans la bande des quatre, il y a Madame Mao, mais il y en a 3 autres. Tous sont au parti. C'est véritablement le legs de ce qui restait de la décadence de la fin du maoïsme qui est en train de se terminer. On est dans une phase de transition, de véritable transition politique, où là, ce qui va jouer, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire trouver une solution à la gestion de la bande des quatre, c'est aussi d'une certaine manière solder la période maoïste, sans dénoncer Mao qui est la figure tutélaire non pas du parti mais de la République populaire de Chine, c'est-à-dire la personne qui incarne l'État. Donc ces années, l'année 1976 est cruciale pour comprendre tout ça.
Et en 1978, Lucien Bianco, qui était un sinologue, nous donne son point de vue sur la démaoïsation qu'il juge très rapide.
Je crois que c'est vraiment la démaoïsation, comme maintenant tout le monde le dit et le répète, et qui est arrivée beaucoup, beaucoup plus vite qu'on pouvait l'attendre. Le culte avait été tel, et la pensée Mao Tse-tung jouait un tel rôle dans la légitimation du régime que je n'aurais jamais espéré, car je la souhaitais, une démaoïsation aussi rapide.
Alors d'après vous, cette rapidité dans la démaoïsation ou dans la remise en question du maoïsme, est-ce que c'est dû à des questions purement politiques, à des questions d'hommes, à des questions économiques, à des questions militaires ? Qu'est-ce qui prédomine selon vous dans ce mouvement ?
Je crois que les questions économiques, le développement tout simplement, est prioritaire. Ce que les Chinois appellent les 4 grandes modernisations, et ils se recommandent de Zhou Enlai, d'un discours qu'il avait prononcé devant l'Assemblée nationale en janvier 1975, un an avant de mourir, où il disait qu'il faut développer en particulier l'agriculture, l'industrie, mais aussi la science et la défense nationale. Eh bien, je crois que c'est cela qui est prioritaire.
Il y a 2 choses à prendre en compte. Les propos de Lucien Bianco sont extrêmement justes et c'est un sinologue qui connaissait extrêmement bien la situation. Nous avons un tout petit avantage, c'est qu'avec le recul, on peut véritablement se demander ce qu'était la démaoïsation. Si la démaoïsation signifie une transformation de la Chine et une volonté de sortir de la pauvreté et également une volonté de mettre fin au culte de la personnalité du chef pour le remplacer par un mode beaucoup plus collectif de l'organisation du pouvoir et de la gouvernance, comme on dirait aujourd'hui, de la Chine. Donc on peut dire que la démaoïsation s'est réalisée, s'est faite, que Deng Xiaoping a été l'initiateur de cette réforme. D'un point de vue beaucoup plus fondamental, on peut se demander encore aujourd'hui si la démaoïsation finalement a été achevée. C'est-à-dire que si on regarde la façon de gouverner la Chine du dirigeant chinois actuel, M. Xi Jinping, qui lui fait référence très directement à des modes en fait, de gouvernance de la Chine très proches de celle du maoïsme, la question aujourd'hui est plutôt de savoir s'il y a une véritable démaoïsation du modèle politique chinois.
Alors ces quatre modernisations, Lucien Bianco les a évoquées, la défense, l'industrie, la science et l'agriculture, qui est peut-être la plus importante, puisque vous l'avez dit, la Chine est un pays essentiellement agricole. Comment est-ce que ça s'est traduit, ces quatre modernisations? Quelles ont été les grandes décisions qui ont vraiment, j'allais dire, bouleversé la vie des Chinois?
Écoutez, énormément de décisions qui commencent par d'abord la volonté de commencer la réforme par les campagnes et non pas par les villes, en démantelant les communes populaires, en permettant en fait une forme de contractualisation des relations économiques avec les paysans de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir l'usufruit en fait des terres qu'ils cultivaient. Ensuite, c'est évidemment toute la politique autour des zones économiques spéciales, les zones franches. C'est aussi une politique qui a eu pour objectif d'intégrer la Chine dans le monde, ce qu'on appellerait aujourd'hui la globalisation, avec des décisions aussi importantes que d'intégrer le FMI, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le GATT. Dès 1986, la Chine s'engage à un jour à accéder à l'OMC, accession qui aura lieu en 2001. Et là, chacune de ces décisions-là, on le voit bien, à la fois le travail sur les campagnes, la maîtrise de l'urbanisation de la Chine, la réforme des entreprises d'État qui aura lieu dans les années 90, les zones économiques franches, enfin, toutes ces étapes-là sont des décisions qui sont d'ordre, on va dire, économico-social, mais qui en fait impliquent une révolution politique fondamentale et qui sont des réformes politiques.
Monsieur Tian Xiaoyao, bonsoir. Je voudrais tout d'abord, rapidement, si vous pouvez nous définir cette nouvelle Chine qui apparaît.
C'est-à-dire, après 1976, la politique chinoise intérieure a changé la direction. Depuis cette date, la Chine s'oriente vers le réalisme au lieu de l'idéologie. La politique intérieure, surtout politique économique, s'oriente vers le réalisme. C'est le profit, comme vous le dites, la prime, l'augmentation de salaire. Tandis que les partisans maoïstes, si je peux dire maoïstes, la primauté, c'est l'idéologie, c'est la politique. C'est une sorte de lutte de deux voies, de deux directions.
Mais M. Chen Xiaoyao, le profit, le rendement, etc., ce sont des notions presque capitalistes.
Oui, en quelque sens, oui. Mais justement, les dirigeants actuels ne veulent pas admettre qu'ils abandonnent le socialisme. C'est dans le socialisme qu'ils empruntent les méthodes capitalistes pour renforcer le socialisme. Ça, c'est une sorte de conception actuelle.
Et vous croyez que c'est possible?
D'après les dirigeants actuels chinois qui disent que c'est possible, non seulement c'est possible, c'est nécessaire.
L'interlocuteur qu'on vient d'écouter indique une chose très importante. Il explique en 1980 qu'il y a l'acceptation de ne plus commander l'évolution de la société par la révolution. C'est-à-dire on renonce à la révolution pour transformer la société. Et ça, c'est vraiment, on peut l'entendre dans le concept d'économie socialiste de marché, puisque ce sont deux termes qui sont totalement contradictoires, qui sont combinés ensemble. Et ils sont combinés ensemble parce qu'on cherche un compromis. Alors quel est ce compromis? Eh bien, c'est à la fois ne pas renoncer au fait que les moyens de production appartiennent à l'État, que l'État, très centralisé, très fort, dicte la politique des prix, même s'il en a une idée assez floue. En revanche, on accepte une forme d'entreprise privée, des petits entrepreneurs privés à l'époque, c'est les premiers. Ensuite, on accepte progressivement une pluralité des régimes de propriété, ce qui va aboutir, mais très tard, c'est-à-dire au milieu des années 2000, à l'acceptation de la propriété privée, mais il faudra 25 ans pour ça. Ensuite aussi, très important, l'acceptation des transferts de technologies et le rôle joué notamment par les diasporas dans les transferts de technologies. Tout ça, c'est ce que sont les ingrédients de l'économie socialiste de marché.
Mais avant, quelque chose de tout à fait différent qui nous a intéressés, nous, à la rédaction. C'est un mot, un seul mot, qui vient de Chine. Vous allez voir. Ce mot, oui, c'est « love », qui signifie « amour » en anglais. « Love » est inscrit sur un « Dazibao », un journal mural de Pékin. D'habitude, on y lit les pensées révolutionnaires ou les dénonciations des ennemis du régime. Aujourd'hui, c'est le mot « amour » qui apparaît pour la première fois sur les murs. La Chine, en ce début d'année, n'arrête pas de nous étonner. La Chine qui, officiellement, a noué en ce 1er janvier des relations diplomatiques avec les États-Unis, également avec échange d'ambassadeurs.
Je trouve intéressant avec le recul qu'à l'époque, les observateurs étaient absolument fascinés par ce qui s'appelait l'occidentalisation rapide de la Chine, de la même façon que Lucien Blanco parlait de démaoïsation très rapide et qu'on a l'impression qu'en réalité, en 2 ans, la situation s'est retournée comme un gant et la Chine devient finalement le principal ami de l'Occident. Deng Xiaoping ayant été aux États-Unis, quand il rencontre Jimmy Carter, c'est une visite d'État qui a pris une ampleur absolument considérable, etc. Bon, en réalité, pourquoi parler d'occidentalisation, puisque le processus d'occidentalisation de la Chine, en fait, c'est un processus compliqué qui date de la fin du 19e siècle ou qui date des guerres de l'opium. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, l'intérêt qu'avait la Chine pour le marxisme-léninisme, c'est déjà un intérêt pour une pensée occidentale et notamment une pensée européenne. Donc, plus que d'occidentalisation, moi, je dirais américanisation, c'est-à-dire le début de cette globalisation à l'américaine et ce soft power américain. Et les jeunes, à la fin des années 70, en sortant de la révolution culturelle, ne rêvaient que d'une chose, c'est de la pop américaine, porter des jeans. Et la Chine, comme dans le reste du monde, aspire à une individualisation de type américaine.
Voilà donc, nous venons d'écouter le documentaire que vous avez réalisé et préparé avec Séverine Cassard, Victor Massé de l'Épinay et donc la chercheuse en sciences politiques au CERI qui est Stéphanie Balme, spécialiste de la Chine. Alors Isabelle Boissel et Benoît Drouet, cette question de la Chine et le monde est une question qui n'est pas si simple que cela parce que simplement il faut connaître un peu l'histoire de ce pays qui n'est pas très régulièrement annoncé, défendu dans les médias en particulier et dans la façon dont on parle du monde, sinon comme une puissance montante. Mais si on veut raconter l'histoire de la Chine et du monde depuis plus d'un demi-siècle, c'est plus compliqué, Isabelle Boissel.
Alors oui, c'est plus compliqué dans la mesure où, en effet, on entend beaucoup plus parler aujourd'hui de la Chine en tant que puissance commerciale, dans une histoire du temps présent. Le sujet ici concerne la Chine depuis 1949, depuis la fondation de la République populaire de Chine. La difficulté vient aussi du fait qu'il s'agit de replacer la Chine dans son rapport avec le monde, justement, et non pas dériver dangereusement dans une histoire purement nationale chinoise. Et donc, il s'agit pour les professeurs comme pour les élèves d'articuler systématiquement les deux. Donc, le sujet sur l'année 78, en réalité, est là, en l'occurrence, au cœur de l'articulation, c'est-à-dire ce bouleversement national qui, en même temps, a un effet direct sur l'ouverture chinoise et la question de l'ouverture chinoise, oui.
Oui, Benoît Drouet, donc une question difficile qu'on aborde comment quand on commence sa copie ou son travail. On est avec des classes qui sont des classes de première ici, mais aussi de terminale, série générale et série technologique qui sont les vôtres en l'occurrence.
Alors, on va utiliser bien évidemment le cours du professeur. Alors, je soulignerai un élément supplémentaire par rapport à la difficulté de ce sujet-là pour nos élèves de terminale. Autant sur les autres thèmes, sur certains autres thèmes du programme de terminale, ils peuvent s'appuyer sur leur connaissance de première, autant là, le thème est véritablement original, c'est-à-dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler avant.
Ça, on démarre de zéro, quoi.
Effectivement, la copie peut déjà commencer par rappeler le contexte de l'arrivée de Mao. Alors, le programme a été également allégé, il faut le rappeler, parce que parfois, nos élèves vont voir dans leurs petits anapacs, on va les faire regarder. Il y avait un allègement il y a quelques années. Donc là, c'est vraiment la Chine depuis 1949. Donc on part de, effectivement, la victoire de Mao. On part du modèle qu'il impose en Chine, qu'il faut présenter, évidemment tout le temps dans le rapport avec le monde. Donc comment ce modèle construit par Mao interagit avec notamment les autres pays proches de la Chine, les relations avec l'URSS, le grand frère, la guerre de Corée. Et donc voilà, on va commencer effectivement sa copie par redonner les éléments de contexte. Alors là, l'avantage du documentaire qu'on vient d'entendre, c'est qu'il souligne également la grande rupture chronologique de la composition, hein, si on le traite de manière en composition, si ce sujet-là tombe en composition, effectivement, il y a deux dates essentielles dans le sujet, 49 et 78.
Donc ça veut dire qu'on a déjà le terme de la première partie, 1949-1978, puis j'imagine qu'on aura une deuxième partie, Isabelle Boissel, qui sera 1978 à nos jours, par exemple.
Exactement. Sans chercher justement, et c'est le moyen de rappeler aux élèves qu'il ne faut jamais forcément chercher des parties extraordinaires ou des charnières particulièrement originales. L'efficacité d'une composition sur la question en deux parties, ça sera parfait s'ils savent articuler leurs notions et leurs exemples. Sachant que le professeur, avec le temps alloué à la question, chaque professeur n'aura pas forcément mis l'accent sur les mêmes exemples. Et donc, faut pas qu'ils s'étonnent non plus d'avoir, au gré de leur recherche, des cours qui peuvent être différents, ou en tout cas, qui mettent en évidence des éléments différents les uns par rapport aux autres.
Benoît Drouet.
Oui, alors, effectivement, on est toujours dans cette phase où on donne également des conseils à nos élèves. Alors, pour bien préparer cette question-là en amont, à la maison, en y réfléchissant aussi, Isabelle Boissel et moi-même, on se disait que une bonne copie, c'est aussi au brouillon, tout simplement, reprendre une frise chronologique pour que tout simplement les choses soient très très claires dès le départ, qu'on ait cette ligne directrice. Donc les
grandes dates.
Les grandes dates, les événements vont se replacer progressivement les uns les autres. On recherche un petit peu dans sa mémoire et les choses reviennent.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, vous avez dit, Benoît Drouet, que le programme avait été allégé il y a quelques années. Auparavant, ça a commencé en 1919. Et vous dites aussi que c'est un chapitre complètement neuf. Est-ce qu'on peut commencer l'histoire de la Chine et du monde en 1949 sans parler un peu avant de politique de la vie de la Chine avant, de qui est Mao, de la longue marche, de la guerre civile, de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer juste...
C'est la question qui fâche. Dans l'absolu, oui, il faudrait développer ces éléments-là, mais encore une fois, dans la mise en pratique, on va dire pédagogique de la chose, c'est quasiment impossible. Alors on est, en fait, en réalité, on est face à un rappel de guerre civile. Et d'un côté un gouvernement nationaliste réfugié à Taïwan et de l'autre la victoire maoïste posant tout de suite l'idéologie et puis on démarre en 49 parce qu'en fait on n'a pas le temps non plus matériellement de faire autrement.
Alors première partie 49-78, j'imagine, qu'est-ce qu'on raconte dans
cette
partie ?
C'est ça. Alors, on pourrait imaginer deux parties, un premier point sur justement la naissance de la République populaire de Chine, la mise en place d'une stratégie d'expansion régionale communiste, donc en insistant justement sur la victoire communiste, le grand frère soviétique, la guerre de Corée, et puis ensuite une deuxième partie sur une Chine qui s'affirme comme une puissance politique indépendante et qui serait en rupture avec l'URSS à partir de 55. Encore une fois, tout dépend de la façon dont on développe les choses en cours. Il s'agit de faire des rappels clairs sans forcément dériver justement dans l'histoire nationale.
Oui, Benoît Drouet.
Il y a une réelle difficulté dans ce sujet, effectivement, c'est que les professeurs ont envie de présenter la Chine, ont envie de présenter des connaissances à leurs élèves. Moi-même, j'en fais partie. Il faut tout de suite recadrer vers la Chine et le monde. Donc cette interaction permanente. Alors c'est vrai que par exemple dans cette première partie, on peut parler à un moment donné des fragilités de ce modèle maoïste. Autant on n'a pas parlé de la personnalité de Mao, de son combat, mais autant le modèle maoïste, ses fragilités, les dissensions internes, ce qui explique la difficulté aussi d'aborder par exemple le grand bond en avant, c'est de la politique interne à la Chine. Et en même temps, ça entraîne une remise en cause du pouvoir de Mao, qui se traduit quelques années plus tard par la révolution culturelle, qui, elle, a un impact dans le monde, puisqu'elle a un impact jusqu'en France au moment de la révolution, de la révolte étudiante de mai 68. Donc, il y a toujours une difficulté dans ce programme-là. Il faut essayer, en tout cas, ce qu'on essaye de recommander aux élèves, c'est d'être effectivement le plus clair possible et de faire ce lien. Voilà, c'est ça. La politique en Chine, quel impact dans le monde ?
Est-ce que, par exemple, dans cette première partie, il faut expliquer qu'il y a des maoïstes en dehors de la Chine, par exemple, et que ce régime ou ce nom de Mao résonne dans tout un tas d'autres pays dans le monde entier, en particulier dans les années 60 et dans les années 70?
Oui, on évoque le petit livre rouge, on évoque des mouvements maoïstes dans le monde, l'influence que ça a pu avoir sur la création de partis ou de mouvements ailleurs à l'international. Ça peut être évoqué aussi de façon indirecte dans les médias et opinions si on parle de mai 68. Il y a des croisements qui vont se faire, tout dépend comment on a avancé avec les élèves, si on a abordé la question avant, après, enfin, voilà. Et insister surtout sur le poids de Mao et sa recherche d'une puissance chinoise dans les relations internationales en tant que leader du tiers-monde, etc. Donc oui, il y a des recoupements évidents.
Et puis la façon dont les autres puissantes acceptent ou pas ce pouvoir de Mao. Il y a une archive que vous nous avez demandé de sortir, donc qui vient de sortir des actualités françaises. C'est la façon dont la France, en l'occurrence, accueille en 1964 la réconciliation, la possibilité d'une réconciliation entre la France de Gaulle et la Chine de Mao. Cet extrait d'archive que vous utilisez parfois en cours.
Il s'agit, a dit le général de Gaulle, de reconnaître le monde tel qu'il est. Et dans ce sens, il n'est pas possible d'oublier à l'autre extrémité du continent européo-asiatique cette Chine, ce très vaste pays géographiquement compact et pourtant sans unité. Un État plus ancien que l'histoire ou un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation qui conjugue le goût de la tradition avec le respect de l'étude et de la science. Ce peuple conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, la Chine de toujours. Cette Chine de 700 millions d'êtres qui est aujourd'hui celle qu'a faite au prix de terribles souffrances humaines et d'une implacable contrainte des masses, Mao Tse-tung. Il n'était cependant, voici 16 ans, qu'un chef de parti vaincu lorsque le rencontra notre reporter dans les cavernes de Yan'an après cette retraite historique de 10 000 km qu'on a nommée la Longue Marche. Un an après, il entrait à Pékin et installait le régime communiste sur la Chine entière. Depuis, un énorme effort a été accompli. Le palais des Fils du Ciel, au cœur de la ville interdite, voisine avec un nouveau Pékin moderne, où, si les voitures sont rares, les immeubles ont poussé de toutes parts pour abriter une population chaque jour plus nombreuse. Le pantalon et la veste bleue ont remplacé pour tous, hommes, femmes et enfants, les vêtures multicolores d'autrefois. La hantise de l'hygiène et la lutte contre les épidémies, la lutte contre la faim endémique et le développement des possibilités agricoles ont pris la première place dans les préoccupations publiques. Cet immense effort s'est manifesté dans tous les domaines. Si l'on compte encore les usines, les communications et les travaux d'irrigation ont commencé à changer le visage de la très ancienne terre de Chine. Comment laisser à l'écart cet immense pays en pleine évolution, ce peuple innombrable en marche? C'est ce qui apparaît avec le poids de l'évidence et de la raison. Ce vide, la France va le combler, renouant ainsi avec un peuple dont la capacité patiente et laborieuse a toujours suscité l'admiration et qui est capable de déployer des trésors de courage et d'ingéniosité, quelles que soient les circonstances.
Voilà, en tout cas, une archive qui pourrait entrer aussi dans médias et opinion publique, parce qu'on peut dire que c'est une archive de propagande française pour le rapprochement entre la France et la Chine, et qu'à l'époque, effectivement, celui qui concevait ce type de reportage était tout à fait proche de la ligne gouvernementale gaullienne de l'époque. Sur ce point, Isabelle Boissel, et sur ce rapprochement, justement, entre la France et la Chine en 1964, c'est un point important qu'il faut mettre dans la première partie, j'imagine, de cette copie.
Oui, alors on peut l'évoquer justement au même titre qu'on évoquera le rapprochement avec d'autres États un peu après. Donc dans le besoin justement qu'a la Chine de s'affirmer régionalement, mais l'ampleur que lui donne aussi en l'écho international de cette reconnaissance par la France. Faut rappeler que c'est au moment où elle se dote de l'arme atomique, et ça peut servir aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à parler des, enfin là en l'occurrence les images parlent aussi parce qu'on voit des images en même temps de poulets en batterie, etc. On est au moment du grand bond en avant et de la grande famine. Donc voilà, c'est aussi des accroches possibles pour parler du grand bond en avant sans faire de politique purement nationale.
Benoît Drouet.
Oui, alors cette archive est intéressante effectivement pour un peu déconstruire le discours officiel, faire ce travail que les élèves peuvent faire avec nous, hein, le travail d'historien, de critique des sources évidemment. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement on parlait hier de la puissance des États-Unis, aujourd'hui c'est la puissance de la Chine, de rallier à cette idée de puissance. Qu'est-ce qu'une puissance finalement, hein? L'objectif de la Chine, l'objectif de Mao est de devenir une puissance politique. Ça pourrait être aussi, en quelque sorte, la problématique de notre première partie. Hein, comment la Chine devient, s'affirme comme puissance politique.
Reconnaissance ensuite par les États-Unis, le voyage et la discussion avec Nixon, par exemple. Oui. Ça fait partie de cette première partie. Et là, on peut se dire que si les États-Unis reconnaissent la Chine, c'est que la Chine existe véritablement, sinon économiquement, en tout cas comme puissance politique, Isabelle Boissel.
Oui, complètement. D'autant qu'elle a bataillé, ou en tout cas, elle a obtenu une reconnaissance déjà à l'ONU, à la place de Taïwan au Conseil de sécurité. Elle a également elle reçoit Nixon, cette Chine en 72, et puis elle montre aussi que finalement un grand comme les États-Unis négocie ou cherche à négocier avec elle une sortie de guerre au Vietnam notamment. Donc c'est des choses aussi dont on a parlé dans les États-Unis et le monde avec les élèves.
Victor Massé de l'Épinay.
Et puis pour s'affirmer comme puissance, c'est ce qu'on entend ici avec la mise en place de relations diplomatiques bilatérales, c'est une volonté de sortir de la logique des deux blocs de la part de la Chine.
Oui, dans la mesure où on a évoqué justement précédemment la tentative de devenir le chef de file du tiers-monde, le rôle pendant les grandes conférences des années 50-60, le principe d'une autarcie stratégique en fait qui lui permet après de trouver une reconnaissance régionale, ce qui va permettre justement ensuite de montrer la deuxième phase, d'entrer dans la deuxième phase en transition aussi pour montrer qu'ensuite elle cherche à devenir une puissance complète en réalité à partir de la fin des années 70.
Alors donc on a entendu tout ce qui était présent par l'intermédiaire de l'analyse de Stéphanie Balm dans la partie que nous avons écoutée en première partie de cette émission autour de ce tournant de 1978. Donc ça nous sert de bascule pour passer dans la deuxième partie, en l'occurrence Benoît Drouet.
Ah oui, parfaitement. Mais cette année 78 dont on ne mesure pas sur le moment même les enjeux à venir. Et très rapidement, effectivement, l'arrivée, en fait, le retour, la réhabilitation de Deng Xiaoping est marquée par une série de réformes. Donc, le début de cette deuxième partie va insister effectivement sur le tournant réformiste de Deng Xiaoping. Et l'intérêt de cette deuxième partie, c'est justement de montrer les ruptures, les continuités. Tout à l'heure, vous me disiez, on va pas parler de la longue marche et du parcours de Mao. En revanche, on peut insister sur la figure de Deng Xiaoping, de montrer qu'est-ce qu'il reste de Mao en lui. Et d'ailleurs, c'est l'objet du documentaire, de souligner cette continuité sur le plan politique.
Isabelle Boissel, donc on continue cette deuxième partie consacrée à la Chine et le monde dans cette émission. Donc nous consacrons à la question du bac en préparation.
Oui, donc dans la première sous-partie, on peut tout à fait envisager d'insister sur le tournant justement réformiste de Deng Xiaoping en montrant justement les limites. En rappelant aussi, et là les élèves d'un seul coup arrivent quand même dans une période ou un début de chronologie qui maîtrise un peu mieux, ou en tout cas ils ont entendu parler de l'ouverture économique, ils ont entendu parler de l'implantation du principe des zones économiques spéciales, etc. Donc là on arrive déjà dans un moment un peu plus détendu, on va dire, avec eux.
Simplement ils ont fait en géographie des choses qui sont proches.
Ils ont fait en géographie, forcément on a fait un rappel de ces ces éléments-là. Donc là, ça devient, c'est un élément qu'ils développeront vraisemblablement peut-être un peu plus dans les copies, où ils seront plus à l'aise, en montrant aussi que, justement, Shenzhen fait partie, enfin, la première Z, c'est que là, il y a des
zones économiques spéciales.
Oui, des zones économiques spéciales. Et donc, elle montre que Shenzhen, justement, c'est aujourd'hui une mégapole qui a pris une ampleur non attendue, en réalité.
Benoît Drouet.
Oui, alors dans cette première partie sur le tournant réformiste de Deng.
Première partie de la deuxième partie.
Oui, la première partie de la deuxième partie, nous sommes d'accord. En fait, je pensais également à la politique de l'enfant unique. Alors, ça fait partie également des éléments dont les lycéens ont peut-être déjà entendu parler, parce que les collègues, lorsqu'ils traitent de la transition démographique en histoire ou en géographie, ils évoquent souvent, effectivement, ces mesures.
L'exemple chinois.
Voilà, l'exemple chinois pour montrer comment on peut réduire de manière un peu drastique la natalité.
C'est 82, la politique de l'enfant unique.
Oui, voilà. Donc, alors en fait, les idées sont déjà en place un peu, je crois, avant l'arrivée de Deng Xiaoping, et puis elles se concrétisent ensuite. Alors, dans la deuxième partie, la deuxième sous-partie de cette deuxième partie, on va ensuite aller tout de suite vers la Chine puissance mondiale. Donc, on va attendre de nos lycéens, et là, ça va être relativement plus facile pour eux qu'ils puissent réactualiser leurs connaissances, y compris celles qu'ils ont acquises effectivement en géographie, l'entrée de la Chine à l'OMC, la volonté de s'affirmer comme une puissance économique. Certes, elle devient la deuxième puissance économique mondiale au tournant des années 2010, mais on va insister sur la puissance culturelle, le soft power, hein, dont on parlait hier également, les Jeux Olympiques de Pékin, l'exposition universelle. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus évident pour les élèves, il y a plus d'éléments qui viennent directement sur la copie.
Isabelle Moissel.
Il y a un autre élément qu'on peut ajouter dans cette première sous-partie, ce sont les ambitions géostratégiques chinoises dans la région, en Asie, mais également d'autres territoires. On parle notamment, par exemple, et là on rejoint un petit peu ce dont on a déjà parlé en géographie, on aborde l'idée du fameux collier de perles dans l'océan Indien, avec les bases dominées par les Chinois, même si c'est une problématique, ou en tout cas un concept qui est un petit peu modéré aujourd'hui, qui a eu enfin beaucoup de succès, parce que voilà, c'est imagé. Mais en tout cas, c'est là aussi, les élèves en ont entendu parler.
Conflits avec le Japon,
voilà,
avec les Philippines.
Voilà, mais ça, on l'aborde. Il y a un thème sur la concurrence, enfin sur la comparaison de puissance Chine-Japon en géographie. Généralement, on l'aborde, ce thème-là.
Victor Massé-Lépiné.
Et Tiananmen, par exemple, qui est aussi une question de politique intérieure, mais qui a eu des répercussions sur l'image de la Chine dans le monde extraordinaire.
Alors ça, on peut l'imaginer dans la deuxième sous-partie du Grand 2, c'est-à-dire dans les limites de l'affirmation chinoise. Alors on s'est posé la question avec Benoît, justement. Évidemment, j'imagine que chaque professeur parlera des événements de Tiananmen, mais certainement, peut-être de façon plus ou moins approfondie. Donc on attendra évidemment que les élèves en parlent. Certains seront peut-être plus armés, en tout cas pour développer la question.
Rappelons, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'était Tiananmen, donc une des grandes manifestations publiques sur la plus grande place de Pékin, qui se termine dans la répression au moment de l'anniversaire de la Révolution française au mois de juillet 1789.
Oui, et expliquer que c'est déjà un peu en filigrane depuis le début des années 80 qu'il y a des manifestations ou des contestations qui sont un peu plus nombreuses, et montrer aussi que le bilan encore aujourd'hui est à bout finalement. Il y a un travail à faire avec eux aussi sur quels chiffres prend-on, etc.
La récupération, par exemple, de Hong Kong fait partie aussi d'une copie comme celle-ci, Benoît Drouet.
Oui, effectivement, parce qu'elle explique effectivement cette politique chinoise d'affirmation, hein, qui s'amplifie, qui se confirme. L'élève, là, elle arrive au tout dernier niveau de sa copie. S'il cite le cas d'Hong Kong et qu'il a aussi beaucoup de connaissances d'actualité, il peut aussi citer Taïwan, les tensions avec Taïwan. Donc là, c'est vrai que le risque pour l'élève, c'est de faire une composition de géographie. On a eu déjà des copies à corriger des précédents bacs où on s'est toujours posé cette question-là, hein, savoir est-ce qu'on avantage ou pas. Généralement, on avantage les élèves parce que les connaissances arrivent, donc évidemment, on valorise. Je voulais juste insister sur une chose. En fait, derrière ça, dans cette composition, si l'élève arrive à montrer qu'en fait, dans ce modèle chinois, il y a deux voies, il y a toujours la voie un peu dure qu'on voit justement dans les événements de Tiananmen, de la répression, et aussi la voie plus libérale d'ouverture économique, que c'est déjà un petit peu en germe sous Mao, parce qu'en fait, voilà, Deng Xiaoping, c'est quelqu'un qui, dans les années 60, au niveau du grand bond en avant, propose déjà des mesures pour libéraliser quelque peu l'économie. Voilà, il y a une tension permanente en réalité.
Et puis, on doit évoquer, j'imagine, des cas, des marges de l'Empire chinois, si je puis dire, le Tibet, mais également peut-être la question des Ouïghours, c'est-à-dire de la contestation musulmane à l'intérieur de la Chine continentale. Et donc, à partir de ce moment-là, de montrer qu'aux marges, il y a des tensions très fortes qui ne cessent d'ailleurs, avec l'Inde voisine, etc., etc. Isabelle Boissel.
Oui, l'annexion du Tibet, on en parle éventuellement dans la première partie, pour que ça soit calé chronologiquement dans les années 50, justement affirmation régionale, unité nationale, etc., en tout cas construction d'une forme. Et en revanche, montrer peut-être justement que dans un deuxième temps, il y a aussi la projection de la problématique tibétaine aussi, qui est prise en compte par les États dans le reste du monde, parfois considéré, parfois oublié, et que c'est aussi modèle et repoussoir finalement.
Est-ce qu'une autre ouverture, ça peut être aussi la question des diasporas chinoises, peut-être les à la fois culturelles avec les Chinatown qui existent un peu partout, et peut-être économiques. Je pense à la Chine-Afrique, les investissements que fait maintenant la Chine dans beaucoup d'autres continents pour le développement.
Benoît Drouet.
Oui, alors vous faites bien de souligner tout ça, parce qu'effectivement c'est une question qui intéresse énormément nos élèves, c'est-à-dire l'influence de la Chine en Afrique, c'est une question qui les captive, on se rend compte d'année en année. Le phénomène d'achat de terres par les entreprises ou des entreprises publiques, même des fois des chinoises, la relation entre la Chine et certains pays d'Afrique, hein, la Chine fait du commerce, ne pose pas la question de la démocratie, hein, la Chine soutient le Soudan par exemple, donc là, c'est un lien intéressant, c'est nouveau, ça crée souvent la polémique, la peur, etc. Donc ça nous permet aussi un petit peu de déconstruire tout ça, d'examiner ça de près, de regarder avec eux. Donc oui, on va valoriser toutes ces connaissances.
Isabelle Boissel.
Le danger étant de faire dériver la copie vers une copie de géographie. Donc il faut aussi qu'ils aient toujours présent à l'esprit qu'il faut équilibrer les parties, et que autant on ne doit pas tendre vers une histoire nationale sur la période maoïste, autant il ne faut pas avoir les deux tiers de la copie sur la Chine ultra-contemporaine des années 2000 non plus.
Victor Massel d'Épinay.
Mais peut-être montrer dans la continuité que la Chine a toujours fasciné, généré un peu de fantasmes aussi en Occident, enfin de fantasmes positifs ou négatifs.
Oui, mais c'était l'intérêt aussi de l'archive sonore, la Chine
de toujours,
millénaire.
La Chine éternelle. Au bout du compte, une copie comme celle-ci, Benoît Drouet, doit à la fois montrer que, même si le sujet est un peu complexe pour la première partie, parce qu'on ne l'a jamais abordé, on accumule des connaissances, on a accumulé des connaissances, c'est-à-dire qu'il y a une prime à la correction, à celui ou à celle qui aura dit à tel endroit des noms, des dates, des faits qui montrent qu'il y a une connaissance un peu approfondie de ce rapport de la Chine ou du monde. Ou est-ce que c'est la question de l'articulation de ces connaissances qui compte le plus dans la correction de la copie, en l'occurrence?
Je vais pas dire qu'il y a autant de corrections que de correcteurs. On a quand même une ligne directrice et on se rejoint sur un certain nombre de points. Qu'est-ce qui est attendu au bac? Effectivement, un contenu. Donc, les connaissances doivent être présentes dans la copie et doivent être justes, rigoureuses. C'est-à-dire une date précise. On ne se trompe pas dans les années. En revanche, inutile de rajouter des connaissances sur les connaissances si l'élève se perd dans ses connaissances. Il faut savoir effectivement rédiger, soigner ses transitions. Donc si les élèves peuvent toujours se rassurer en se disant, parfois après un bac, les élèves nous disent « Oh, j'ai oublié de parler de ça ». Je dis « Bon, tout dépend de ce que tu as écrit à côté, mm-hmm. tout dépend effectivement de ce que tu as rédigé, notamment dans les transitions. » Donc il faut de l'analyse, au-delà des connaissances, il faut de l'analyse.
Est-ce que vous avez des précisions à demander à vos professeurs, vous qui appartenez au lycée Jacques Prévert de Taverny, sur cette question particulière de la Chine et du monde? Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous a une question précise, une interrogation qui lui permettrait de mieux préparer son bac d'histoire autour de la question de la Chine et du monde? C'est une question que je vous pose à vous. C'est à vous de la poser s'il y en a une. S'il n'y en a pas, si vous pensez que vous avez été absolument satisfait par ce qui a été dit ici même, eh bien, ça n'est pas la peine. Mais est-ce qu'une main se lève ou pas?
Non, c'est bon, on est satisfait.
Vous êtes satisfait. Alors, Isabelle Boissel, même question pour conclure et pour terminer cette discussion autour de la quatrième émission consacrée dans la Fabrique de l'Histoire au bac donc d'Histoire. Même question que celle que je posais tout à l'heure à Benoît Drouet. Ce type d'agencement de connaissances est important pour pouvoir montrer que non seulement on a des faits précis, mais on a aussi un raisonnement, une pensée sur la connaissance de long terme, sur 50 ou sur 60 ans, de cette histoire des rapports entre la Chine et le monde.
Oui, la valorisation sera toujours sur une définition claire des notions qui articulent le devoir en général. Donc clairement, des titres de partie qui font sens, des notions qui sont définies d'emblée, même s'il manque quelques exemples très développés, s'il y a un exemple avec une notion qui paraît d'emblée clair comme de l'eau de roche dans la copie, les correcteurs sont satisfaits.
Et puis, il est toujours bon de savoir qu'il faut une bonne cerise sur le gâteau. Pour finir, on termine sur quoi, Benoît Drouet ? Une ouverture qui serait satisfaisante pour un correcteur ? C'est quoi sur cette question, rapport Chine et monde ?
Je vais peut-être un peu vous contredire, vous gêner. Moi, je déconseille à mes élèves d'ouvrir hein, s'ils sont dans la difficulté de le faire, parce que parfois, c'est maladroitement fait par nos élèves. Hein. C'est difficile d'ouvrir un sujet, on prend des risques. Alors, s'ils ont des connaissances, pourquoi pas ? On peut se raccrocher sur une connaissance d'actualité. Par exemple, là, récemment, Taïwan qui vient de nommer un nouveau Premier ministre, et la Chine qui a rappelé qu'il était hors de question que Taïwan demande l'indépendance, parce que ça serait vu comme un geste de folie absolue.
Donc un fait d'actualité peut venir au secours pour la conclusion, pour pouvoir dire ben, je suis au
là,
courant
c'est la très bonne copie, oui,
ou les sûr. Ou les annonces de la Chine pour la conquête spatiale peut-être par exemple.
Oui, ou bien tout simplement la question posée par le fait que les médias ont relayé abondamment il y a quelque temps le fait qu'elle était en passe d'être la première puissance mondiale. Les élèves ont toujours une question en disant est-ce que c'est vrai que. Donc pourquoi pas terminer là-dessus, la question reste ouverte.
Merci, merci Isabelle Boissel et merci Benoît Drouet, professeur au lycée Jacques Prévert de Taverny, d'être venu plancher avec nous sur cette question visiblement difficile, la Chine et le monde, ainsi qu'à leurs élèves du lycée Jacques Prévert à Taverny et aux élèves de Eliane Leport et Sylvie Gento, professeur au lycée Gaston Bachelard, qui était également avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et merci à tous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet pour cette série spéciale du bac. Nous remercions à la technique Stéphane Desmonts, Julien Calvas, Stéphane Touvenin, Steven Chardonnay, Sophie Pierre et à la réalisation Françoise Camard. Si vous voulez réécouter l'ensemble de ces émissions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous trouverez les émissions de cette semaine, mais également les émissions des semaines précédentes consacrées au bac dans la Fabrique de l'Histoire. Et vous pourrez également retrouver l'ensemble de l'opération de France Culture avec les émissions de littérature, de philosophie et de sciences consacrées à la préparation du bac cette année. Merci à toutes et merci à tous. Le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.